Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. À nouveau ensemble pour la suite du roman de Alice Fernet, Grâce et dénuement. Les enfants triaient des boulons lorsque Esther arriva. D'ordinaire, ils couraient vers elle, mais cette fois, ils se contentèrent de lever la tête.
« On s'est fait rouspéter, » murmura Anita. « Faut qu'on bosse. »
« On fait quand même la lecture ?» demanda Esther.
« Oui, oui, la lecture, c'est sacré, mais faudrait finir ces boulons, » dit Sandro en montrant le tas.
Michael tendit un fil. « C'est du cuivre, papa va le vendre. » Esther savait que les pères faisaient de la ferraille. C'est ainsi qu'ils en parlaient. Et quelquefois, c'était plutôt du recel. Il venait lui souffler
« J'ai un miroir, tu veux un miroir ? J'ai de l'or, tu veux de l'or ?»
Esther disait « non » de la tête. Elle disait toujours « non ». Ils avaient deux camions entièrement rouillés dont nul n'aurait su dire comment ils les avaient eus, pas même eux qui ne se souvenaient pas de l'argent passé entre leurs mains une fois qu'ils ne l'avaient plus. Les camions ne roulaient presque jamais, ils étaient vieux. Mais, disait Lulu, c'était la dernière chose pour rester un peu des hommes, des êtres autonomes et non pas des rampants. Il avait cette conscience des limites jusqu'où peut aller le dénuement sans vous détruire, sans broyer le noyau central que l'on appelle l'âme. Le sentiment de soi, l'estime qu'il faut bien se porter pour vivre et pour, disait-il, accepter toute cette merde. Il désignait la ville, sans se sentir sale. Les hommes disaient « On n'a même pas de quoi bosser. » Et tout de même, malgré une nonchalance devenue habituelle, c'était un outrage de ne pas pouvoir partir le matin, s'éloigner des femmes, faire la tournée des décharges et revenir les mains noires. Lorsqu'ils étaient partis avec leur camion faire le tour des casses, Esther, à dessein, demandait aux femmes « Ils sont pas là, les hommes ?»«
Non, » répondaient les épouses.
« Ils travaillent quand même. » Elles étaient fières.
« Pisser, c'est vivre, » disait Lulu, en partant derrière les bosquets. Les enfants riaient en l'entendant. Simon écoutait les histoires, debout devant Esther, mince comme un jeune arbre et plus têtu qu'un nanon. Entre deux phrases, elle levait les yeux. Ce jeu des regards ralentissait la lecture.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit l'empereur,
lut Esther. Les chaussures de Simon venaient d'entrer dans son champ visuel. Elle redressa la tête. Il riait.
« Allez, lis !» dit Sandro. Elle reprit. « Le rossignol, je ne connais pas du tout. Existe-t-il un pareil oiseau dans mon empire ?»
Simon partit d'un rire énorme. Esther sursauta.
« Dans quel état était-il ?
Pfff !» fit Michael, comme s'il chassait un rat. Mais l'oncle s'en moquait bien.
« Grand-mère ! » appela Anita.
Angéline arriva.
« Viens, » dit-elle à son fils, « laisse les enfants avec la gadget. »
Esther acheva le conte.
« Je voudrais un petit oiseau qui me dit tout, » dit Mélanie,
Invente-le, dit Sandro.
Idiot, dit la fillette, je veux un vrai oiseau.
Celui de l'empereur n'est pas plus vrai, et tu y crois, dit Sandro.
Tu as raison, dit Esther.
Et pourtant, il est devenu réel.
Le garçon acquiesça, il savait cela aussi bien qu'elle.
Les enfants, dit Angéline un peu plus tard en regardant son fils hébété qui lançait des coups de pied dans les cailloux,
les enfants, ils nous sortent du ventre, mais c'est tout ce qui est sûr.
Ce qui court dans leur sang, on n'en sait rien.
Et les arranger comme on veut, c'est pas la peine d'y compter, ils en font jamais qu'à leur tête.
Elle secoua la sienne.
« Je suis fatiguée, dit-elle.
C'est l'hiver qui durcit.
Et quand ça durcit, les vieux s'en vont. »
« Tu ne sais pas ça, toi, dit-elle en prenant le bras d'Esther.
« J'ai vu un corbillard avec des chevaux, dit-elle. »
Esther s'étonna. Elle n'aurait pas cru que cela existait encore.
« Je l'ai vu, répéta la vieille.
« Tu voudrais des chevaux pour ton corbillard ?»«
Non, dit Esther, je serai morte, je n'aurai plus besoin de chevaux. »«
On est pareil, dit la vieille. »«
Mais c'était beau, dit-elle. »«
Par quoi commençons-nous aujourd'hui ?» demanda Esther le mercredi suivant.
Les enfants attendaient qu'elle propose. Elle énuméra les titres.
« Boucle d'or et les trois ours ».
« On l'a déjà lu !» s'écrièrent les grands.
« La princesse et le petit pois, le roi grenouille, Baba l'ogresse, Jeannot loup et le cruel Albert. »
Personne ne voulait le même livre.
Ils commencèrent à se disputer.
« Ta gueule !» disait Anita. « Grosse conne !» disait Sandro.
« Ne parlez pas comme ça !» suppliait Esther en riant.
« Mais, dit Anita, il me... »«
Je ne veux rien savoir !» dit Esther.
Elle demeurait en retrait des discussions.
« Débrouillez-vous, leur disait-elle, il faut apprendre à convaincre.
Et ne vous battez pas, dit-elle,
car ils ne connaissaient que la loi du plus fort.
« Où est Michael ? » demanda Esther.
« Le voilà, dit Anita, qui voyait venir son cousin.
Il tenait dans les mains un poussin.
« Bonjour, Côte-Coq, dit-il. »
Il adorait les poules et s'était mis à appeler Esther de cette façon.
Le poussin pépillait de toutes ses forces.
Sa minuscule tête jaune émergeait à peine entre le pouce et l'anneau des doigts.
Les pépiments se mêlaient aux cris des enfants.
Le garçon fit tournoyer son bras dans l'air pour étourdir son prisonnier.
Le silence se fit.
Esther crut le poussin mort.
Mais il bougeait encore.
« Allez, dit-elle à Michael, rapporte le poussin et viens t'asseoir avec nous. »
L'enfant ne voulait pas lâcher son trophée.
Esther insista.
Il serrait plus fort chaque fois qu'elle lui demandait de lâcher.
Elle se remit à lire.
« La tempête faisait rage. Au milieu de la nuit, quelqu'un sonna à la porte du château.
« Allez ouvrir, dit le roi. »
Michael écoutait.
Brusquement, il jeta le poussin par terre d'un geste dégoûté.
La pelote, jaune, s'écrasa dans la boue.
L'animal pivota sur lui-même comme s'il cherchait l'air.
Les enfants virent sa tête basculer doucement,
puis ses yeux se couvrirent d'une membrane blanche.
Qu'est-ce qu'il a ? Dit Esther au garçon.
Il ne bouge plus.
Il est peut-être mort, dit Michael.
On lit, dit Anita.
Attends, dit Esther. Je parle avec Michael.
Tu lui as fait mal, dit Esther.
Le garçon boudait.
Voudrais-tu qu'on te fasse mal comme ça ? Demanda Esther.
Il secoua la tête.
Alors, dit-elle, tu ne le fais à personne, ni aux animaux, ni aux enfants.
Elle les regarda tous.
« Soyez gentils, dit-elle.
Frapper n'est pas le meilleur moyen. »
Il ne disait plus rien.
Elle dit « Nous avons des mots, nous parlons. »
« Mais pas avec les animaux, objecta Michael. »
« Les animaux comprennent aussi,
dit Esther, et de toute façon on ne brutalise personne.
Qu'as-tu gagné ? Demanda-t-elle.
Tu n'as plus de poussin, voilà tout, dit-elle.
Je m'en fous, dit le garçon.
Tu y réfléchiras tout seul, dit Esther, et tu seras de mon avis. Il n'y a ni sens ni beauté à avoir tué ce poussin.
Bon, s'impatienta Anita, quand est-ce qu'on va lire ?
Mélanie regardait Michael comme s'il était un monstre.
C'est fini, dit Esther, en caressant la tête de la fillette. On n'en parle plus.
Elle lut ce jour-là sans attention, distraite par la moindre chose. Misia traînait à quelques pas du groupe, portant Jumbo dans les bras. L'enfant pleurait. Il avait grandi, commençait d'être attiré par le monde comme l'on est à cet âge et peut-être même toujours en s'y cognant. Misia tâchait de le consoler. Il braillait plus fort quand sa mère l'embrassait, comme si un baiser pouvait compenser le monde perdu. Cabré en arrière, ne songeant qu'à essayer ses jambes et ses bras neufs, à se traîner à quatre pattes et à sucer les cailloux. Mais le sol était plein de morceaux de verre et de fil rouillé. Misia portait son fils toute la journée. Et lui n'en pouvait plus des bras de sa mère, des seins de sa mère, de l'odeur de cette chair qui couvrait pour lui l'odeur du monde. La femme et l'enfant s'éloignèrent.
« Et maintenant la fable de la semaine, » dit Esther.
« Ouais, ouais !» s'écrièrent les enfants. « Le loup et l'agneau !» annonça Esther. Elle lut.
« La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. »
Simon se planta devant eux. Il se balançait d'un pied sur l'autre. Avait-elle dit quelque chose qui le mit en colère ? On ne savait jamais ce qu'il prenait pour lui.
« Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, » dit Esther en prenant une grosse voix. Elle était inquiète. Simon souriait méchamment. Elle leva les yeux.
« J'ai bien le droit d'écouter, » dit-il.
« Oui, » dit Esther, « mais alors assois-toi avec nous. »«
Continue, » dit-il, « vas-y, lis, » dit-il, sans bouger.
« Allez, lis !» dirent ensemble les enfants. «
Ouh, ouh !» fit le loup, cria Esther.
« Allez !» dit-elle aux enfants. « Criez le loup !»« Ouh, ouh, le loup !» crièrent les enfants.
Mais ils préféraient entendre Esther.
« Allez, toi-même, crie le loup !» supplia Sandro. « Ouh, ouh !» fit Esther. « Ouh, ouh !»
Le petit garçon riait sans pouvoir s'arrêter.
« Qu'est-ce qu'elle fait, la gadjo ?» disait Milena à Nadia, en entendant ce rire.
Deux tziganes sans répit grattent leur guitare, raniment du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Echraz, ischoraz, ischomanagamanagaraz, echraz, ischoraz, ischomanagamanagaraz. Jouer tzigane, jouer pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? Ah, t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain et encore plus après-demain. Echraz, ischoraz, ischomanagamanagaraz, echraz, ischoraz, ischomanagamanagaraz.
Je veux rire, veux chanter, et saouler ma peine, oublier le passé, qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez, versez-moi encore, pour que je m'enivre. La la er, la ze is cholaz, is chamalag amalag. La ze er, la ze is cholaz, is chamalag amalag. Deux guitares en ma pensée, jette un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La 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 er, la is sho, is sho, is sho, ma la, ma la, ma la, er, la is sho, la, sho, ma la, ma la, la. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps rouler sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. Mais en attendant, jouez, jouez, je leur donne. La is sho, la, sho, ma la, ma la, ma la, er.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Grâce et dénuement, Alice Fernet. La nuit suivante, Simon défonça sa caravane à coups de barre de fer. Le jour, il monologuait au bord du feu, lançant sa jambe au-dessus des flammes qui léchaient son pantalon. La tribu s'arrêtait pour le regarder avec un air de béatitude. Ce spectacle d'un homme qui se perdait semblait les apaiser. Il y a au fond de nous quelque chose qui aime les monstres, les pas normaux, disait la vieille à Esther. Elle l'avait susurré, comme si à cet instant elle n'avait pas eu la peine habituelle. Mon Simon, dit-elle, je l'ai su dès qu'il était petit, qu'il n'était pas comme les autres. Il était câlin, et en même temps, dès qu'il a eu la force, il a cassé tout ce qu'on lui donnait. Sa première femme, il l'a cassée, dit-elle à voix basse. Le feu s'agitait autour de quelques bouts de pneus et d'un peu de bois. « Je te fais peur ?» demanda la vieille. On aurait dit que c'était ce qu'elle voulait. « Non, dit Esther, mais quand même c'est terrible. » La vieille sembla le découvrir. « C'est la vie qu'on a, dit-elle. Le Dieu ne donne pas tout. » Elle tourna les yeux vers son fils. Elle le regardait, penchant de côté la tête, attendrie comme par un petit. « Il n'est pas vraiment fou, dit-elle. Il est nerveux. » Elle s'emporta. « Ceux qui comprennent pas qu'ils mangent de la boue. » Puis elle ajouta, « Faut juste qu'il prend ses médicaments. » « Ça, c'est important, dit-elle. Le médecin l'a dit, jamais arrêter de prendre les médicaments. »« Tu t'en vas ? » dit-elle en voyant Esther s'envelopper dans son châle. « Vous voulez que je reste un peu ?» demanda Esther. « Non, » dit la vieille. « Rentre chez toi. » Les gitans prenaient plus que les livres. Ils prenaient Esther. Les femmes se confiaient, les enfants s'attachaient, et les hommes désormais s'en mêlaient aussi. « Esther, et nous alors ?» disait-il de loin. Ils voulaient la même attention qu'elles donnaient à leurs femmes. Lulu et Moustique étaient les plus gentils. Ils réclamaient qu'elle les appelât par leur petit nom. Ils lui faisaient répéter « Lulu, Moustique !» Elle riait. « Lulu, Moustique !» disait-elle. Mais elle n'avait pas avec eux la complicité que trouvent aussitôt les femmes. Esther ne savait pas réconforter les maris. Chacun doit faire son ouvrage. Or, ils étaient plus souvent sous que vaillants. Une clairvoyance
les traversait parfois. Il devinait Esther et ce qu'elle pensait d'eux.
« Gâché !» disait-il de loin.
Et Esther savait maintenant que ça signifiait aussi « putain ». Il passait la journée à bavasser. Simon lui faisait peur. Antonio la dévorait des yeux. Quant à Angelo, elle ne le voyait jamais. Mais un jour, il faudrait en convenir. Même si c'était un malheur, dirait Angéline, Angelo, ce fut un envoûtement. Angelo avait besoin d'aimer. Il avait observé Esther au milieu des enfants. Il entendait leur rire. Il avait fini par venir voir de près. Ce jour-là, elle regardait avec eux un livre sur la peinture. Des détails de tableaux étaient reproduits. « J'aime celui-là, » fit Angelo en désignant un Van Gogh. « Lis-moi, » dit-il à Esther. « C'est plus vrai que la fleur, » dit-il en désignant un autre tableau. « Tu vois, » dit-il, « ce livre, si je savais lire, je le mangerais. » Elle était émue. Elle lui prêta le livre pour la semaine. « J'en ai marre de lui lire sans arrêt les noms, » dit Nadia la semaine suivante. Il baissa la tête, mais resta avec son livre sur les genoux à côté d'Esther. Elle passa un moment avec lui. « Regarde ça !» s'exclama-t-il. « Regarde ce bras !» Il était subjugué. « T'en as d'autres, des livres de peinture ?» demanda-t-il. « Tiens, » dit-elle un mercredi, « je t'ai apporté le premier livre sur la peinture que je me suis offert quand j'ai commencé à bosser. J'avais 20 ans. » Il s'était trouvé amoureux avant même de reconnaître ou de comprendre ce qui lui arrivait. Quand il avait perçu son trouble, le mal était fait depuis longtemps. Il était tombé dans l'amour. C'était une chute vertigineuse. Il était pris en entier par l'idée de cette femme qui avait les cheveux comme un buisson et les lèvres mouillées par la lecture. Une gâchée. Le songe est une autre manière de vie et la part de rêve que peut accepter l'esprit est grande. Angelo n'avait pas plus d'expérience du rêve que celle de l'amour. Il fut balayé par le songe amoureux. La pensée d'Esther ne le quittait pas. Il habitait en rêve une terre qui n'existait pas, du moins qui n'était pas pour lui, et cette terre s'appelait Esther, pleine d'enfants, de livres et de mots roulés dans une bouche charnue de femme en pleine floraison. Il se couchait pour rêver tranquille. Il s'appliquait à ne penser qu'à cette femme. La visualiser dans d'hypothétiques situations où ils auraient été ensemble. Il lui parlait, murmurait des choses qu'il n'avait jamais dites. Elle répondait les mots qu'il inventait pour elle. Il partait s'asseoir sur une pierre, calait ses fesses dans un creux de son relief. Assis à ne rien faire, il pouvait le rester plusieurs heures, lorsque personne ne cherchait après lui. La vie prenait moins d'importance, puisqu'il avait en lui cet amour. Il rêvait de cette face veloutée avec ses surfaces étonnamment larges pour ce qui n'était qu'un visage. Les joues d'Esther, pensait-il, étaient rondes et lisses comme des fesses. Il devenait fou. Il connaissait chacun des instants où il s'était parlé. Il avait repris et ressassé chaque mot. Rien n'avait pu se perdre, mais tout s'était usé. Sa mémoire était méticuleuse, et il vivait lové dans cet amour en forme de néant qui avait pris en lui comme une graine, ivre des promesses qu'elle portait sur elle sans le savoir avec la grâce des innocentes. De cela, il ne disait rien à personne. Si les autres avaient su cette passion, ils l'auraient salie et détruite. « Tu ne convoiteras pas la femme d'un autre !» répétait Angéline à ses garçons. Ils riaient,
regardant avec la même allégresse gourmande tout ce qui avait hanches, seins et longs cheveux. Oh oui, ils auraient volontiers lutiné ces brins d'épouse dont ils n'auraient pas entendu le soir les rouspétances.
Mais Angelo surestimait le rêve. Il fut malheureux.
On approchait de Noël. Les femmes étaient occupées à préparer des boules de papier mâché. Il s'était mis à faire très froid, l'humidité glacée de cette terre et de cette saison. Esther poursuivait ses lectures.
« Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue.
Il était une fois, tous les mercredis.
Ce rythme immuable était le calvaire d'Angelo. C'était peu pour être heureux et trop pour oublier.
Il n'avait pas le temps de se réjouir que déjà elle était repartie, et pas celui de se faire une raison que déjà elle était de retour.
Esther alimentait sans le vouloir un feu qui avait fini sa flambée. Elle réveillait chaque mercredi ce qui commençait à s'apaiser.
Quand elle quittait les enfants, Angelo connaissait à la fois le tourment du désir ravivé et celui de l'absence à venir, une semaine entière à attendre.
Il apercevait Esther et les enfants derrière les vitres embuées de la voiture dans laquelle il s'enfermait pour lire. C'était une image invraisemblable.
Mais Angelo ne le savait pas.
Il contemplait 7 enfants et une femme blottis dans une Renault sur un terrain vague, un flanc d'une ville somptueuse qui s'abandonnait là à sa misère muette et secrète.
Parfois, il riait tellement là-dedans que la carrosserie bougeait. Esther disait
« Les amortisseurs sont foutus. » Et Michael répondait « Mon père, il saurait te les changer si tu lui demandais. Le mien aussi, il saurait, » disait Anita.
Anna et Priscilla ne disaient rien. Que savait faire leur père? Elles ne se le demandaient plus.
Simon passait parfois près de la voiture, toujours marchant et ballant comme s'il était enivré.
Elle rougissait.
Bientôt, elle partirait avec leur mère pour le laisser.
Oui, Elena leur avait parlé, et elles étaient devenues ce jour-là des grandes.
C'était ce qu'avait dit la mère après qu'elle eût dit le père et le malheur.
Esther percevait ce manège de leurs pensées.
Elle lut le voyage de Plume.
C'était une terre verte. Et lui, qui n'avait jamais vu que le blanc de la glace, fut ébloui.
Le visage d'Esther était blanc comme la glace, pensait Sandro.
Lorsqu'il n'y avait pas d'image sur la page, les enfants la regardaient lire.
Elle ne voyait pas qu'ils avaient tourné la tête et avaient l'impression de la surprendre, elle qui ne ressemblait pas aux femmes qu'ils connaissaient.
Elle était emmitouflée dans son manteau.
Les enfants n'étaient pas couverts. « Vous me faites froid, » disait-elle. Il riait, habitué à ne pas porter de manteau. Il courait le ventre à l'air pour les garçons qui perdaient leurs pantalons, les jambes nues sous les robes pour les filles. Ils étaient constamment enrhumés, ne sachant pas se moucher ni même ce que c'était, et ravalant d'une grande inspiration les chandelles, morves et autres glaires verdâtres qui leur descendaient du nez aux lèvres.
Misia frappa le carreau. C'était jour de bain. Les enfants se lavaient dehors dans les grands bidons. Les femmes faisaient chauffer l'eau sur le feu. Elles les plongeaient les uns après les autres dans le liquide gris qui avait fait le linge et la vaisselle. Leur petit corps maigrichon, qui ne paraissait jamais propre, parce qu'on ne pouvait pas tout laver en même temps, le corps et les vêtements, ressortaient rougis, tels des crustacés cuits. Elle les frottait avec vigueur pour qu'ils ne prennent pas froid, riant, caressant, embrassant, mordillant, avant de les confier à Lulu qui les portait à bout de bras comme des flambeaux jusqu'à la caravane où ils se rhabillaient seuls.
Et quand Esther vint pour les aider, ils dirent « Oh, on n'est plus des bébés !» Esther observait Anna, Carla et Sandro
qui était déjà baigné, habillé et attendait que la grosse Mélanie prît son tour dans le bidon.
« Tu vas voir qu'elle a des seins qui poussent !»
murmurait Sandro à Anna, qui n'en avait pas.
« C'est pas possible !» répondait l'autre.
« Je suis plus grande qu'elle !»«
Oui, mais t'es moins grosse !» dit le garçon.
Voilà, nous avons terminé pour ce soir, donc... La suite de ce roman, grâce au dénouement de Alice Fernet, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.